France Musique. Les grands entretiens. Jean-Baptiste Urbain. France Musique.
Montpellier, 24 janvier 1941, naissance de Isabelle Marielle Nordman, musicienne.
Nous nous recevez chez vous, à côté de la cheminée où le feu est en train de s'éteindre, pas très loin de la forêt de Fontainebleau, avec derrière vous deux harpes. Cette harpe, vous la jouez encore tous les jours? Vous la travaillez tous les jours?
Alors, moi je suis une grande paresseuse, hein, contrairement à ce que les gens pensent. C'est-à-dire que je ne travaille que quand j'ai des concerts. Je ne suis pas du tout du genre à me pousser, à me dire « oh là là, il faut faire... » Alors, je suis capable de m'arrêter, ce que je n'étais pas capable de faire il y a quelques années. En avançant dans la vie, quand je n'ai pas vraiment à un concert précis à donner, je suis capable de m'arrêter pendant un mois, complètement, et de faire plein d'autres choses. Je crois que c'est très très bon pour la harpe, c'est bon pour la dame. Et puis, je m'aperçois en m'y remettant que ça va tout seul. Je sais que si je m'arrête, alors voilà, quand on s'arrête trop longtemps jouer de la harpe, on a mal aux doigts, mais bon, il faut choisir, donc voilà. Et bon, j'ai la chance d'avoir de très 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 beaux instruments et d'avoir le plaisir d'en jouer.
Quel rapport vous avez avec cet instrument, ces instruments qui sont en bois, faits de cordes, qui ont parfois... Une image chalonnarde, une image, il y a ce décor. Vous l'avez toujours aimé, cette harpe? Vous l'avez toujours défendue?
Ah, ça c'est une question rude, hein, parce que, alors dire que j'aime la harpe, bon, ça va faire sauter au plafond tout le monde. Dire que j'aime la harpe, j'ai envie de vous dire non. La harpe n'a jamais été pour moi qu'un instrument qui me permettait de faire de la musique et d'entrer en contact avec les gens qui étaient en face de moi. L'instrument a de grosses failles pour moi, c'est-à-dire qu'il ne peut pas garder le son. Et c'est par le son gardé que l'on peut avoir une ligne mélodique. Un chanteur ne chante pas en faisant juste un son et ça s'arrête, et un son et ça s'arrête. Il y a une continuité qui est donnée par le souffle. L'archet du violoniste permet de garder le son, la pédale du piano permet de garder les sons. Chez nous, il y a un peu une pauvreté de ce côté-là, mais ça a été un challenge. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que je n'avais que deux buts, finalement, avec cet instrument. Lui donner un maximum de sonorité pour pouvoir jouer avec d'autres instruments, ne pas me cantonner à jouer avec la flûte ou avec le violon, et puis, à tout craint, arriver à le faire chanter. Et ça a été le moteur, et ça continue à l'être. De changer l'image d'un instrument un peu sec, un peu petit, un peu désuet, avec un répertoire un peu salonnard. Bon, la harpe, instrument des anges, instrument des jeunes filles de bonne famille qui jouent pour leur papa d'abord, pour leur mari ensuite. Ça a été un peu un combat, mais ça a été un but en même temps, et ça a été un moteur.
Thank you.
le rapport à l'instrument est un rapport extrêmement sensuel et charnel, puisqu'on a l'instrument dans les bras, qu'on le tient entre les genoux. Je me souviens, sur France Musique, il y a pas mal d'années, je crois que c'était Philippe Calogny qui me posait des questions. Il me disait, mais Marianne Landin, pour vous, est-ce que l'harpe est un instrument féminin ou masculin? Et moi, j'ai répondu, de toute façon, un instrument que j'ai dans les bras 5 heures par jour ne peut être que masculin. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait passer un savon abominable par Fontana Rosa en me disant « Ouais, mais de quoi j'ai l'air, moi, maintenant ?» Mais j'ai pas envie que ce soit un instrument féminin, parce que dans le mot féminin, pour moi, quelque part, il y a quelque chose d'un peu... Il y a une espèce de, peut-être, de faiblesse ou peut-être de choses un peu charmantes. J'ai pas envie que ce soit un instrument charmant, j'ai envie que ce soit un instrument puissant et qui ait toutes ces lettres de noblesse pour dire tous les sentiments et toutes les émotions qui nous traversent.
Vous avez combien d'instruments ?
4 qui fonctionnent bien, et j'en ai un peu pourri qui est dans quelque part à la campagne chez des amis où quand j'y vais je peux bouger les doigts, mais enfin ça va pas beaucoup plus loin. Ouais.
Vous avez gardé vos harpes de votre jeunesse?
Non, du tout. D'abord, je suis pas spécialement conservatrice, je suis pas du tout. Alors le monde matériel, quelque chose qui m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. J'ai toujours vendu un instrument pour en acheter un autre. Donc, j'ai vendu l'harpe de ma grand-mère. Tout le monde était scandalisé. Elle me suffit plus. Donc, comme j'ai pas les moyens d'en acheter une, je l'ai vendue. Et ça a toujours été un peu comme ça. Là, j'ai la chance là d'avoir 3 harpes qui sont vraiment très, 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 très belles. Qui sont des harpes américaines, qui sont des harpes anciennes et qui ont surtout l'une d'elles une puissance tout à fait exceptionnel qui me permet de pouvoir jouer avec orchestre.
Une bonne fée de beaucoup de jeunes musiciens à travers une fondation. Comment ça a démarré?
Il y a 25 ans, Bruno Rigouteau,
pianiste,
oui, bien sûr, grand pianiste, a appelé un certain nombre de ses amis en leur disant, je viens de mettre en place quelque chose avec une banque qui se propose de mettre des sommes importantes pour des bourses pour des jeunes musiciens. Donc, voilà. Donc, il y a eu un jury qui a été créé, dont j'ai fait partie. Et puis, au bout de 5 ans, Rigouteau a lâché son poste de présidence de la branche musique et m'a appelé en me disant, je voudrais que ce soit toi qui me remplace. Alors, moi, je suis absolument tombé de ma branche parce qu'il y avait tellement de grands musiciens dans ce jury. Je voyais pas du tout pourquoi ça venait jusqu'à moi. Et il m'a dit, je te demande à toi parce que tu es la personne la plus honnête que je connaisse. Voilà, donc 15 ans de présidence du jury. Après ça, il y a eu la création des musicales de Bagatelle, qui sont donc le festival de la Fondation Banque Populaire. Et voilà, donc je suis la directrice artistique, et puis je continue à m'occuper un peu de la fondation de la branche musique. À l'intérieur donc de cette fondation, aujourd'hui il y a 3 volets, le handicap, la musique et les métiers d'art. La musique, en passant devant un jury, encore une fois, ce n'est pas un concours, mais c'est un jury. Les jeunes musiciens sont pris en charge financièrement pendant 3 ans, ce qui leur permet de préparer des concours, ça leur permet de quelquefois de vivre tout simplement. Et puis il y a donc avec ce festival qui est un peu le pendant de cette branche musique. Tous ces jeunes musiciens sont à l'orée vraiment de leur carrière, puisqu'ils sont extrêmement jeunes. Et ouais, enfin voilà, on va dire que je me sens un petit peu un rôle de maman musicale, c'est-à-dire de leur apprendre un petit peu, grâce à mon expérience, qu'est-ce que c'est que d'être un jeune musicien, les erreurs à ne pas faire, puis aussi cette possibilité de marier des personnalités qui peuvent se trouver, qui peuvent se rencontrer, puisqu'ils sont, ce sont pratiquement tous des solistes. Il y a quelques quatuors ou quelques trios, mais pas énormément. Donc voilà, de mettre ensemble des gens qui ont la même identité, qui ont la même façon de voir la musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime infiniment et qui m'enrichit beaucoup. J'espère que c'est la même chose de l'autre côté. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui sont voilà, des jeunes artistes privilégiés. Enfin, privilégiés parce qu'ils se sont des grands artistes et non pas parce que moi, je ne privilégie personne. Je suis beaucoup trop honnête pour ça. Mais ils jouent. Et c'est moi, si j'en suis la directrice, donc la directrice artistique, donc c'est moi qui choisis les musiciens. Forcément, il y a des personnalités qui se sont révélées et qui ont été, que j'ai senti être plus proches de moi. Alors, bon, c'est un peu difficile d'en citer hein, parce qu'il y en a quand même énormément. Enfin, en plus, on peut dire qu'aujourd'hui, tous les musiciens qui jouent en France, qui ont entre 30 et 40 ans ou entre 30 et 45 ans, sont tous passés pratiquement par la Fondation, tous les Capucins.
Renaud Capuçon, Madame Laloum.
Oui, voilà, Corsia, Tiberghien, Laloum, Chamaillou, Cadouche, je ne sais pas, enfin, c'est fou, quoi, le nombre de jeunes musiciens qui sont passés par là.
Comment on repère un grand ou un futur grand musicien ?
Par son charisme, je crois, par sa générosité, par sa modestie, par son désir d'apprendre. Vous savez, le meilleur moyen pour connaître quelqu'un, c'est de jouer avec lui. Il y a des jeunes musiciens qui ont l'air comme ça d'être des gens tout à fait extraordinaires, puis on joue avec eux, puis on s'aperçoit que il se passe rien. Ou alors qu'ils sont tout seuls sur scène, ou alors qu'ils font leur show dans leur coin. Voilà, il n'y a pas cette espèce de complicité amicale et basée à la fois sur une confiance, sur un respect, sur un échange. C'est très 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 subtil. Hein. Et puis je crois que c'est surtout un contact qui se passe d'âme à âme, de âme à âme. Parce que là, c'est dans une telle subtilité que c'est très très difficile d'employer des mots. Il y a des gens avec lesquels les choses n'ont pas forcément besoin d'être développées, d'être dites. Il y a une compréhension qui se passe, qui se tisse dans des échanges quelquefois non verbaux. Et moi, je dis que le meilleur endroit pour se connaître, c'est la scène. Ça, c'est le lieu où vous savez exactement qui vous avez en face de vous. Parce que quand vous êtes en scène, vous ne pouvez pas tricher. C'est impossible. Vous jouez comme vous êtes.
Parmi ces jeunes musiciens, il y a un violoniste venu de Belgrade, Nemanja Radulović. Comment vous vous êtes rencontré ? Comment vous l'avez rencontré ?
Alors, je l'ai rencontré grâce à Patrice Fontanarosa, qu'il avait entendu. Il avait 12 ans et demi, il était venu passer le concours Thibaut. 12 ans et demi, et il est arrivé, je crois, en demi-finale ou quelque chose comme ça, et je me souviens de Patrice rentrant et me disant « j'ai entendu un gamin complètement incroyable ». Voilà. Après ça, donc 12 ans et demi, 13 ans et demi me semble-t-il, enfin entre 13 et 14 ans, il y a la guerre en Serbie, et toute la famille Radulović arrive en France en tant que réfugié politique, avec vraiment une brosse à dents dans une poche et Nemanja avec un violon au bout de son bras. Très vite, ils sont dans une situation compliquée. Et il se trouve que c'est le moment où nous déménageons et nous allons nous installer à côté de Montargis. Et donc la maison que nous occupions à Suresnes est vacante pendant le temps du déménagement. Et donc les Radulović s'installent dans cette maison. Mais très très vite, ils étaient là depuis quelques mois. Moi, je donnais un récital à côté de Grenoble. J'appelle les parents de Nemanja et je leur dis, bon, je ne sais pas très bien dans quelle langue parce que personne ne parlait grand-chose, mais enfin peut-être un peu en anglais. Et je leur dis, voilà, moi je donne un récital, je voudrais emmener Nemanja avec moi pour qu'il puisse jouer avec moi. Bon, c'était l'occasion de faire gagner un tout petit peu d'argent et puis bon, voilà, commencer à le faire entendre. Ceci dit, il est arrivé en France à 13 ans, il avait déjà donné plus de 600 concerts, hein, donc il n'avait pas trop besoin de moi. Enfin, en France, oui. Et voilà, on décide de jouer, je dis, allez, on va jouer une sonatine de Schubert. Et quelques jours avant le concert, je m'aperçois qu'il n'a pas appelé et qu'on n'a pas répété. Je me dis, quand même, il est gonflé ce gamin-là, il pourrait peut-être venir un petit peu voir de quoi il s'agit. Et donc, voilà, je vais répéter avec lui. Et là, ça a été, je crois, un des plus grands chocs de ma vie. Ce gosse, d'abord, il savait évidemment la sonate par cœur. Il se met à 30 cm de moi et il joue comme s'il était installé dans la harpe. Et on joue cette sonate du début à la fin. Et quand ça a été fini, je n'avais pas un seul mot à lui dire au niveau de l'interprétation. Rien. C'est comme si on avait joué ensemble depuis toujours. Et c'était absolument hallucinant. Hallucinant de la façon dont, j'allais dire, dont nos cœurs se mélangeaient au niveau de la musique. C'était un truc, c'était inimaginable pour moi. Donc ça a commencé comme ça. Moi, c'était tellement merveilleux que voilà. Bon, chaque fois que c'était possible, je le faisais jouer. Je sais que Patrice Fontanarosa le faisait aussi beaucoup jouer avec lui. Il l'a emmené dans pas mal d'endroits. Et puis il est rentré à la Fondation l'année d'après. Donc là, c'était déjà un peu moins compliqué au niveau financier, puisqu'ils avaient quand même de quoi manger, de quoi commencer à s'assumer un peu. Et puis, partout où ils passaient, c'était fou. Les gens étaient là en demandant, mais ce gosse, c'est incroyable. Et puis, petit à petit, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que dès le départ, il y a eu, peut-être un peu comme avec Laskine, il y a eu une espèce d'évidence dans notre rencontre. Une évidence, alors évidemment, là aussi, il y a pas mal d'années, on est séparés par pas mal d'années. Mais ça, enfin, moi je le sens pas. Et on peut avoir des conversations, c'est absolument hallucinant parce que je me souviens qu'il est arrivé un jour à midi à la maison. On s'est arrêté de parler, il était 11h du soir. On a parlé 11h de suite. Une espèce de complicité dans la façon d'envisager la vie, d'envisager la musique. Alors évidemment, j'ai quand même pas mal d'années de plus que lui. Donc, j'avais vraiment envie de lui donner, de lui dire tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et je pense qu'il était vraiment prêt à tout attraper. Il a fait la même chose avec Patrice Fontanarosa, qui reste pour lui quelqu'un d'extraordinairement important aussi, je crois. Et puis, Nemanja a perdu sa maman. Et donc, du coup, je me suis sentie un petit peu comme devenant une présence féminine maternelle auprès de lui. Et même si maintenant, alors on a joué, effectivement, on a joué ensemble entre son âge de 13 ans et son âge de 30 ans, donc ça fait quand même 17 ans.
Et enregistré un disque aussi avec Nemanja Radulović.
Enregistré un disque, et on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup joué ensemble. Et je crois que Nemanja, ça restera peut-être avec Laskine et Rampal, l'interprète avec lequel je me suis sentie le plus libre. Et le plus, j'allais dire, le plus aimé. il n'y avait aucune barrière, c'est-à-dire on était tellement juxtaposés musicalement et humainement parlant que sur la musique, il pouvait y avoir un double forte et on arrivait double piano et il y avait juste un échange de sourires, une espèce d'évidence. Je ne sais même pas exactement quel terme employer, sauf que Nemanja est un être d'une générosité absolument incroyable, d'une humanité incroyable. Il faut dire qu'il a vécu des périodes tellement difficile dans sa vie, parce que il faut pas oublier, quand il avait 11 ou 12 ans, il a vécu la guerre, et la guerre, c'est quand même quelque chose de terrible, et que comme sa mère était médecin, il l'a aidé à faire des choses qu'un enfant de 11 ou 12 ans certainement ne doit ni faire ni voir, et ça lui a donné une maturité et une générosité sur le plan humain. C'est quelqu'un d'une bonté d'âme que... Je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait hors du commun. C'est quelqu'un que j'aime infiniment. Je crois qu'il m'aime beaucoup aussi. Et ça restera pour moi une des grandes rencontres dans ma vie.
Ariane Dorman, quels sont vos projets aujourd'hui? Vos envies, vos rêves?
Ah, qu'est-ce que je peux bien avoir comme rêve et comme envie? J'ai envie de continuer à ne faire que les choses auxquelles je crois. J'ai envie de ne rencontrer et de n'être proche que des gens avec lesquels je m'entends bien. J'ai envie de faire de la musique, pourquoi pas avec des gens que je ne connais pas, mais peuvent me faire encore découvrir quelque chose. Voilà, on n'a pas parlé de quelqu'un que j'aime beaucoup avec, et qui m'a beaucoup aidé à connaître quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est un musicien argentin qui joue du bandoneon, qui s'appelle Eduardo Garcia, et qui m'a appris à faire du tango. Et je lui ai une grande reconnaissance pour la patience qu'il a eue pour m'apprendre à faire du tango, ce qui n'est quelque chose de pas si simple que ça. Et ça, c'est très récent, hein. Ça date d'il y a 4 ou 5 ans. Donc, je pense que je n'ai pas encore tout à fait fini de découvrir des choses. J'ai envie de prendre le temps qui n'existe pas, mais enfin, en tout cas, de pouvoir le palper, de pouvoir le humer, de pouvoir le sentir, de pouvoir aller vers l'essentiel, vers mon essentiel, et puis d'arriver en meilleur état possible à la fin de ma vie. Alors après ça, la harpe, j'en joue tant que j'ai envie d'en jouer. Le jour où j'aurai plus envie d'en jouer, juste je m'arrêterai. Et je pense que ça se fera tout naturellement. Et de pouvoir continuer à aimer et à être aimé. C'est un vaste programme déjà, hein. C'est déjà pas mal, hein. Thank you.
Adios Nonino, Astor Piazzolla avec Eduardo Garcia au bandoneon et Marielle Nordman à la harpe. Voilà, toutes les références des musiques que vous avez entendues sont sur la page de l'émission. Les grands entretiens, c'est sur francemusique.fr et vous pouvez écouter ou réécouter cette série de 5 émissions sur cette même page ou en podcast. À la prise de son, il y avait Olivia Branger, attachée de production Marion Guillemet, mixage Valérie Lavalard, réalisation Gilles Blanchard.
À réécouter sur francemusique.fr.